France Musique. Les grands entretiens, Laurent Valero.
Je suis Gustavo Beitelmann, toujours argentin, toujours musicien, compositeur, pianiste et pédagogue. J'ai très clair que je n'aimerais pas faire autre chose que celle que je fais. Donc, faire la musique, la, disons, 24 heures sur 24. Donc, je voyage à la ville de Rosario, qui est une ville qui est à 200 km de la maison à Venado Tuerto, parce que là, je savais qu'il vivait une dame qui était réputée pour être une très bonne pédagogue. Et je savais qu'en plus de son talent, elle avait été élève à Vincenzo Scaramuzza, qui a eu une fabrique de talents.
De très grands pianistes.
Et c'est ça, en Argentine, donc, le père de Barenboim, donc Barenboim par ricochet, et Martha...
Martha Argerich.
Si, Martha Argerich. Vous voyez, ça, c'est mes réflexes d'argentin. Hein. Pour nous, c'est Martha, ou Martita, non?
Ah oui.
La petite Martha. Bon. Et Bruno Leonardo Gelber. Et tous les grands pianistes de l'époque qui ont joué la musique populaire. Autrement dit, Attilio Stampone, Horacio Salgan.
Là, on revient à l'univers du tango.
Tous ces gens-là ont passé par les mains de Vincenzo Scaramuzza. Donc, je savais que la dame avait étudié avec Scaramuzza et aussi elle avait travaillé à l'époque avec Walter Gieseking. Elle a été interdit de concert en Europe par sa connivence avec le Troisième Reich. Il gagnait pas mal sa vie et en passant des mois en Amérique latine, notamment entre l'Argentine et l'Uruguay. Donc, il donnait des cours. Donc, la dame avait participé pendant 2-3 ans des cours assidus de Walter Gieseking. Que nous autres Argentins, indépendamment de son passé politique, idolâtrions du point de vue de sa compréhension de Ravel et de Debussy, qui étaient pour nous des références absolues d'interprétation. Bon, bref. J'y vais chez elle, je sonne. Et la dame est là, elle me reçoit, elle me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, apprendre à jouer le piano. Bon, joue-moi quelque chose. Je n'ai rien à jouer, je ne sais pas jouer. Mais tu sais jouer un tango? Oui. Bon, alors joue un tango. Je joue en tango, elle me dit, t'as du talent, je te prends. Bon, donc voilà. Et donc j'ai étudié avec elle. Jusqu'au moment où la dame m'a dit, écoute, laisse tout tomber et travaille à full time le piano. J'ai fait de toi un pianiste de très bon niveau. Et moi, je ne me suis pas vu dans cette vie de...
De musicien classique
et d'interprète à travailler comme un forcené les pianos. Et ce n'était pas mon univers. Et ça, je crois l'avoir compris d'une manière obscure. J'ai eu un rejet physique de sa proposition, mais pas, ça n'a pas passé par la tête. Il y a eu quelque chose de physique qui m'a dit « ça, ce n'est pas pour toi ». Mais curieusement, les bases de ce que la dame m'a appris pour approcher le piano, ils sont restés toujours en moi. Et un jour, en écoutant un programme, une interview, une longue interview à France Musique de Maria João Pires, qu'est-ce qu'elle dit, Pires? Parce que je vous parle il y a beaucoup d'années de ça. Elle dit, non, je n'ai pas pour le moment le temps de m'occuper et avoir des élèves, etc., etc. Elle dit, mais par contre, je sais une chose, si j'ai quelqu'un qui vient et j'ai un peu de temps, elle dit, moi, en 50 minutes, je lui explique qu'est-ce que c'est le piano et après, il a toute une vie pour pratiquer. Et je me suis senti représenté parce que j'ai travaillé avec cette femme pas plus d'un an. Mais et j'ai travaillé pas seulement de manière intense, c'est que la méthode, l'approche qu'elle avait, elle m'avait convenu. Donc je le garde jusqu'à aujourd'hui. C'est que comme j'y vais et j'ai 5 minutes et je dois travailler mon piano, j'ai fait les mêmes choses que quand je faisais à 18 ans avec elle. Ça, oui, il m'a accompagné une existence, la manière dont Arminda Canteros, c'est comme ça qu'elle s'appelait, concevait le piano, fruit aussi, pas seulement de son talent, mais de son contact avec Guy Sekin et Scaramuzza.
Comment se passent les premiers pas vraiment de musicien professionnel, Gustavo Beitelmann? Ça, évidemment, c'est en Argentine.
Comment ça se passe? Bon, j'ai commencé à travailler et poussé par la faim à Rosario comme musicien professionnel. Et donc, mon premier travail est mémorable puisque je m'arrange pour arriver 40 minutes plus tard à la répète. Donc, le chef d'orchestre me dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et j'essaie d'inventer quelque chose qui n'a pas marché. Il me dit, mais, tu vois, ça c'est bien plus important que la musique que tu devais jouer avec nous. Donc, continue, tu n'as rien à faire ici. Donc là, j'ai appris que d'abord, la question de l'horaire était importante, pas seulement comment remplir, et qu'il y avait bien d'autres choses que les petits provinciaux que j'étais. Je n'avais pas vraiment compris l'univers professionnel. Donc voilà, j'ai commencé à travailler à Rosario. J'ai peaufiné, j'ai fourvi mes armes, non? Puisque j'ai fait beaucoup d'accompagnement des chanteurs. Là, j'ai fait une grosse expérience avec... on était deux. Et... lui était plus âgé que moi, l'autre, qui est un merveilleux bandoneoniste qui s'appelle Cholo Montironi, et moi. Et on m'avait pris, moi, parce que j'étais habile, disons, j'étais un bon lecteur de musique, j'avais développé une capacité de lecture, et j'avais les petites choses du métier, donc je pouvais... modifier une partition, changer tonalité, jouer avec la main gauche, ce qui est écrit à la main droite. Enfin,
s'adapter très bien à un chanteur.
Exactement. Donc, Cholo et moi, pendant quelques années, on a fait un bon couple qui accompagnait tous les chanteurs de tango qui comptaient dans les années 60 et qui ont passé par Rosario, qui faisaient toujours le même circuit. Autrement dit, ils prenaient le train le vendredi soir ou le samedi matin, arrivaient de Buenos Aires à Rosario. On répétait le matin et après on faisait des shows samedi et dimanche. Donc tout ça contre la montre. Donc clac, 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 les partitions. Et là, ta, 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 pom, pom, pom. Allez. Là, une expérience que je ne peux pas raconter, par exemple, à mes élèves, qui veut dire prendre une partition, savoir ce qu'il y a, et le type dit oui, mais ce n'est pas dans cette tonalité, c'est dans une autre, bon, ce n'est pas dans ce tempo, mais c'est dans une autre. Voilà. Donc, ce qui faisait le violon, c'est toi qui vas le faire avec la main gauche, mais ce n'est pas tout ce type d'alias du métier. On le faisait ensemble avec un homme hors de commun qui était Cholo Montironi, que lui ne se trompait jamais, comme vous l'entendez, jamais. Donc j'ai appris de lui et j'ai appris le répertoire, j'ai appris à accompagner, j'ai appris à poursuivre les gens quand ils sont pas bons dans leur texte. Donc leur tempo est chancelant et personne ne doit se rendre compte. Donc, c'est pas moi. J'ai passé tout ce qui est, d'une certaine manière, les gothas du tango vocal des années 60 et plus tard. Moi, je l'ai accompagné. Moi, je ne faisais pas avec une conscience développé que j'étais en train de faire mon métier. J'ai fait ça pour payer le loyer. Mais, beaucoup d'années plus tard, je comprends que les réflexes et la connaissance du répertoire et la possibilité de passer d'un style à l'autre, tout ça vient
oui, c'est pour moi de là. C'est inestimable comme,
oui, oui.
Comme expérience.
France Musique, les grands entretiens de Gustavo Bettelmann.
Gustavo Bettelmann, vous êtes compositeur, mais vous avez commencé en Argentine à prendre des cours de composition.
Ouais.
Ça s'est passé quand et où ?
Mais j'ai commencé à m'intéresser pour ce domaine à Rosario, parce que j'avais fait des progrès importants au piano. Donc, beaucoup de jeunes compositeurs ou de jeunes interprètes me demandaient que je leur joue leur musique. C'est comme ça que j'ai arrivé à la figure d'un homme central dans mon existence, qui est Francisco Kröpfel. Donc, je suis de son existence à Rosario. J'ai voulu étudier avec lui, mais pour étudier avec lui, il fallait se transférer à Buenos Aires. Donc, pour moi, Buenos Aires était aussi loin que Paris. Donc, bon, c'était une aventure pour moi, passer d'un monde provincial, non, à la capitale d'un pays. Et c'est comme ça que Kröpfel m'a presque dit Et la même chose que la dame qui avait, avec qui j'avais étudié le piano, elle dit, mais vous avez des pièces à me montrer? Je dis non. Et qu'est-ce que vous pouvez me montrer? Je dis, je sais pas, moi je joue une pièce de jazz. Je joue. Et le type me dit, vous savez, pour moi, une bonne partie des très grands musiciens argentins sont des musiciens de jazz. Donc je vous prends. Et c'est comme ça que j'ai fini élève à Francisco Kreffer, qui après est devenu peut-être mon plus grand ami. Et surtout la figure de la personne qui a eu la plus grosse influence sur mon existence. Et moi, je pense qu'il est essentiel pour ma vie parce que c'est la personne qui m'a appris à travailler et pouvoir penser la musique. Pas seulement que la musique pourrait être pensée, mais elle doit être pensée.
Buenos Aires, vous voilà musicien professionnel. Et quels vont être l'essentiel de vos activités? Il y aura le cinéma, il y aura la télévision, le studio, le tango, j'imagine, et peut-être d'autres choses.
Oui, à Buenos Aires surtout, et ça a été curieusement plus facile qu'à Rosario travailler, et plus facile à Buenos Aires qu'à Paris. Donc j'arrive et j'ai fait une chose, j'ai fait une autre. Et au bout de quelques mois, il y a un ami de Rosario qui me contacte et me dit, Gustavo, est-ce que ça t'intéresserait faire la musique d'un documentaire d'archives sur la vie d'Eva Perón? Bon. Moi, j'ai trouvé intéressante le fait d'être confronté à l'image. Je n'avais aucune acquaintance politique avec le péronisme, mais j'avais un intérêt pour l'image.
C'était nouveau pour vous?
Je n'avais jamais imaginé que je pouvais avoir des relations avec l'image. Donc c'est comme ça que je commence à travailler pour l'image. Alors je me retrouve au centre d'une tourmente, non? Parce que des provinciales affamées qui accompagnaient des chanteuses espagnoles dans un bar espagnol à être sollicitées par beaucoup de gens pour faire des projets de toutes sortes, je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé. Donc, ma vie change à 360 degrés, c'est pas un peu, ça change absolument. Donc, je commence à faire, c'est pas 4-5 musiques de films par an. Ceci jusqu'à mon départ en France.
Oui, donc, c'est beaucoup.
Oui, j'ai fait comme 50 musiques de films en Argentine.
Et vous vous souvenez de musiciens comme ça qui vous sollicitaient, de gens qui étaient intéressés de jouer avec vous parce que vous étiez un compositeur reconnu?
Je me souviens d'un qui est l'inventeur du rock en Argentine, Jorge Álvarez. Jorge Álvarez, qui était un personnage hors du commun, était un homme extrêmement cultivé, un agité absolu. C'est lui qui avait découvert García Márquez, par exemple. Tout ça commence par un projet possible de faire une comédie musicale de 100 ans de solitude. Donc, pour me prouver la véracité, le type appelle Mexique depuis son bureau. Il parle avec García Márquez. Bon, à la fin, pour les histoires d'intermédiaire, donc arriver à un accord n'est pas si simple que ça. Donc, c'est pas fait. Mais j'ai commencé à participer dans l'aventure du rock en Argentine.
Et alors, cette musique du rock, c'était une musique que vous aimiez, Gustavo Bechelman?
J'ai découvert avec eux. Donc, moi, ça m'avait plu, les Who, les Yes, les Clapton, les Emerson, Rick and Palmer, les The Mothers of Invention, même Elton John. Et j'ai travaillé avec des groupes qui sont devenus, après, mythiques de la scène argentine, comme un groupe qui s'appelle Sui Generis, qui est un groupe hyper connu de l'Argentine.
Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren.
J'ai des souvenirs très forts de ce monde de Buenos Aires, qui était un monde ouvert et apte pour toutes les aventures, non? Et que vous pouviez les traverser en longue et en traverse.
Oui, parce qu'à cette époque-là, quand vous faisiez du rock avec des musiciens du groupe Sui Generis, par exemple, ouais. Mais vous pratiquez le tango encore avec des chanteurs ou des chanteuses? Et le jazz
Moi, j'ai pratiqué la musique contemporaine. J'ai même dirigé des ensembles, etc. Donc, on parcourait dans tous les sens la musique, non? Et c'était un groupe de musiciens que j'étais pas seul. Je veux dire, on était plusieurs à faire ce type de choses, à passer d'une famille à une autre famille.
Oui.
Et non, sans temps... mal, mais on pouvait le faire. Et moi, je pense que moi-même, toutes ces années aussi, j'étais happé par des choses que je ne connaissais pas que je pouvais faire. Par exemple, avoir la possibilité d'enregistrer 3 ou 4 fois par mois avec 70-80 musiciens et après faire la musique pour les films et après courir et faire une télévision. Et après courir et faire, c'est pas un show avec une vedette espagnole qui me demandait, c'est pas moi, tout ça je le connaissais pas. Et j'ai déchanté vite. Mais ça c'est une autre histoire. Et parce que c'était pas pour moi.
Il y a beaucoup de musiciens qui ne rêvent que de ça. Passer d'une télé à une radio, à diriger un orchestre.
Ouais, tout
c'était
ça.
Pas votre rêve.
Non, c'est, j'ai découvert en le faisant que j'étais pas fait pour ça.
Thank you.
C'est avec des Carissimo d'Astor Piazzolla, interprété par le pianiste Adrian Yáñez, que prend fin le deuxième volet du grand entretien consacré au compositeur Gustavo Bethelmann. Cette émission est disponible à la réécoute et en podcast sur francemusique.fr. Prise de son Pierre Monteil, mixage Tahar Bouklifa, attaché de production Marie Ferdinand, réalisation Lionel Quentin. La suite de ce portrait demain sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.